Au positif,
Véronique Thibérien.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute de cette émission. J'espère que vous allez bien. On va vous accompagner jusqu'à 11h, jusqu'à 12h, pardon. Aujourd'hui, nous parlons science, santé et bien-être dans l'émission, puisque notre dossier sera consacré à la pleine conscience, avec un petit cahier d'exercices de pleine conscience proposé par Ilios Koutsou. Il nous en parlera dans l'émission. Nous parlerons avec le docteur Georges Marès, il est cardiologue, lui, aux cliniques du Sud Luxembourg à Arlon, de la semaine du cœur qui débute aujourd'hui. Nous aurons également du son de l'espace, des abeilles à 11 ou 40%, un bébé au capi à Anvers, une bactérie pour du biocarburant deuxième génération, et puis des ovnis au-dessus du Golden Gate et d'Hollywood. On en parle tout de suite.
ADN, Véronique Thibérien, Yasmine Boudaka.
Bonjour Yasmine.
Bonjour Véronique.
Ça y est, je suis réveillée. C'est bon.
C'est mon tour bientôt. On démarre, Véronique, avec ce qui serait une première mondiale. C'est ce que dévoile le site MaxiScience. La société française D-Innov serait parvenue à concevoir du biocarburant deuxième génération grâce à une bactérie appelée D-Innocoque. Alors le D-Innocoque, c'est une super bactérie. On dit qu'elle est la plus résistante au monde. Et pour la petite histoire, eh bien, elle a été découverte en 1956, un peu par hasard, par des militaires qui cherchaient à stériliser leur ration de combat. Alors cette super bactérie, elle a été modifiée, les chercheurs l'ont fait évoluer et c'est devenu une bactérie qui permet facilement fabriquer du bioéthanol. Il faut savoir que c'est déjà une propriété naturelle. Ouais. Mais que les chercheurs sont intervenus sur la quantité d'alcool que peut fabriquer cette bactérie. Alors pourquoi deuxième génération ? Eh bien, il faut savoir que jusqu'ici le bioéthanol, qui est utilisé comme biocarburant, est principalement fabriqué à partir de matières qui ne sont pas 100% transformables. Donc on pense à la betterave, au maïs, à la canne à sucre. Et si on prend un exemple, le blé, eh bien, lorsqu'on transforme le blé, on n'utilise que 80% du grain, donc il y a 20% de déchets entre guillemets. Et puis le procédé de transformation nécessite deux étapes de la biocarburant de première génération. Avec cette deuxième génération et le D-Innocoque, eh bien, les chercheurs auraient mis en point un procédé tout en un, donc qui ne nécessite pas deux étapes et qui en plus utiliserait 100% de la matière de base. Les premiers résultats sont donc prometteurs. Les chercheurs souhaitent obtenir des concentrations plus importantes en alcool. Et si tout se passe bien, confie le directeur général de la société à MaxiScience, eh bien, la première usine fonctionnant avec ce procédé devrait voir le jour en 2014. Les prochains résultats donc arrivent en 2013. Tous les détails de cette découverte sur le site maxiscience.com.
C'est une super bactérie alors qu'ils ont fait.
C'est une super bactérie qu'ils ont utilisée et exploitée dans le cadre de la transformation de biocarburant.
Je vous parle, moi, des abeilles, si vous le voulez bien. Souvenez-vous, nous retournons en avril dans le magazine Science. Et une étude conduite par Michael Henry, qui travaille à l'Institut National de Recherche Agronomique de l'INRA, montrait qu'une bonne partie des abeilles butineuses ne retrouvaient pas leur chemin après avoir été exposées à de faibles doses de cruiser. Donc, ne retrouvaient pas le chemin de la ruche, étaient donc perdues pour la ruche. Ce qui a provoqué en France l'interdiction de l'utilisation de ce pesticide à la suite donc de cette étude. Eh bien, un chercheur britannique a commencé à contester l'étude au mois d'août en disant que, en réalité, c'est pas vraiment l'expérience qui est contestée, mais plutôt le résultat, le modèle mathématique qui a été utilisé pour évaluer l'effet de la désorientation des butineuses sur la ruche entière. En fait, selon ce modèle, une colonie qui n'est pas exposée à l'insecticide croît de 11% par mois en période de floraison du colza. Mais c'est trop peu pour compenser les effets du cruiser, mais pour les contradicteurs, ce taux ne serait pas de 11% mais de 40%. Alors vous allez dire, on ergote un petit peu et finalement tout cela c'est querelle académique et querelle de chercheurs. Et bien peut-être pas forcément, en tout cas en ce qui concerne le magazine Le Monde d'aujourd'hui qui publie un article récent sur la chose, puisque le 21 septembre, donc la semaine passée, l'université d'Exeter, qui fait partie des contradicteurs, a publié un grand renfort d'annonces sur le net et dans les journaux. Il n'est pas prouvé que les pesticides soient coupables du déclin des abeilles. Sur quoi repose cette affirmation ? Sur cette simple querelle de chiffres ? Et sur quoi repose cette querelle de chiffres des 40% ? Sur une étude qui date des années 80 et qui a été réalisée sur trois ruches. Ce qui D'accord. veut dire que c'est pas tout à fait non plus très expressif. Et ça l'est encore moins quand on sait que d'après l'enquête du magazine Le Monde, eh bien, le chercheur en question de l'université d'Exeter est soutenu par l'agrochimiste Syngenta, qui est le propriétaire de Creuser. Donc on se pose effectivement la question de savoir finalement quelle est la part d'objectivité de son étude. Et si même lui est objectif dans son étude, eh bien le fait d'être commandité par Syngenta provoque de toute façon presque l'inadéquation de la publication qui vient d'être faite. Donc il n'est toujours pas prouvé à l'heure actuelle que ces abeilles ne seraient effectivement pas tuées ou en déclin à cause du pesticide Creuser.
C'est un peu toute la polémique au niveau de la structure de ce qui se passe avec les OGM et le rapport de Séralini en ce moment. Donc voilà, même à petite échelle et pour ces petites abeilles, eh bien, ce problème d'objectivité se pose.
Et c'est également ça qui est intéressant, c'est de voir le débat dans les journaux, non pas sur les résultats même, mais sur tous les à côté, les effets d'annonce, qui travaille avec qui. Et les journalistes font plutôt un bon travail d'enquête en ce moment. Donc c'est intéressant de voir les articles qui sortent. Soyez pas désespérés en vous disant « Oh, on parle encore de cette étude ». Lisez bien les articles parce que vous allez voir justement qu'il y a des subtilités qui sont assez intéressantes et mises au jour à ce moment-là.
Véronique, qui attendait l'oreille, savez-vous ce qu'est ceci ?
Un singe.
Non, ce ne sont pas les pandas non plus ou les requins.
C'est quoi alors ?
Eh bien, ça s'appelle le cœur de l'aube. Alors, ça ressemble, c'est vrai, à des frétillements d'oiseaux, mais pas du tout, puisqu'il s'agit en fait de 5 enregistrements de 6 secondes, mis bout à bout, de sons produits par la magnétosphère terrestre.
L'espace,
effectivement, des sons de l'espace. Ce sont des chercheurs de l'université de l'Iowa aux États-Unis qui ont capté ces sons. Et donc oui, on peut dire que l'espace émet des sons. Il fallait simplement un microphone adapté pour pouvoir les capter. Ces ondes, tout simple, c'est pas nouveau hein, ceci dit. Ces ondes sonores sont dues aux particules énergétiques qui sont présentes dans le champ magnétique terrestre et qui seraient tout à fait perceptibles par l'oreille de l'homme, à condition de se trouver d'une part dans l'espace et d'autre part sans casque, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Ces enregistrements ont été réalisés grâce à un outil baptisé M-Physis et qui a été placé à bord d'un satellite qui a été lancé par la NASA ce 30 août. Et donc, c'est vrai qu'on connaissait déjà ce bruit depuis quelques années. C'est peut-être la première fois qu'on le met bout à bout comme ça. Ça ressemble à des gazouillements des oiseaux et donc c'est parce que aussi il était produit le matin, qu'on a appelé ça le cœur de l'aube.
Oh, c'est poétique. Hein. C'est plutôt poétique, comme quoi on peut être. Et donc ce son n'est pas transformé.
Non, pas du tout. Perceptible tel qu'il est entendu ou qu'il pourrait être entendu si nous avions la chance d'aller dans l'espace. Voilà.
Témoignage.
J'ai grandi avec le programme des navettes et ça m'a beaucoup inspiré et donné envie d'aller dans l'espace.
Ça fait partie de notre histoire. Je ne voulais pas rater ça.
C'est un événement historique, vraiment. Nous devions être là pour le voir.
De quoi parle-t-il ?
Ça date de quand ?
Oh, ça date de ce week-end.
Malencocha.
Eh bien, on va rester un tout petit peu dans l'espace quand même, puisque il parle en fait de la navette spatiale américaine Endeavour, qui a conclu son dernier vol l'année passée, en 2011. C'est d'ailleurs ainsi que la NASA a conclu ses vols spatiaux. La navette, elle, a participé essentiellement 12 de ses 25 missions à la construction de la station spatiale internationale et cette navette vient d'effectuer son dernier vol vers Los Angeles puisque c'est là qu'elle sera exposée à l'avenir aux yeux de tous. Et c'est un vol un peu particulier qui a été réalisé puisqu'elle était amarrée au dos d'un Boeing 747 qui a pris grand plaisir et d'après les témoignages des pilotes c'est vraiment un très grand plaisir à voler à très basse altitude pour que tout le monde puisse admirer cette navette une dernière fois. Les pilotes se sont fait plaisir aussi en passant au-dessus du Golden Gate, au-dessus des lettres Hollywood, bien sûr. Et puis, ils ont aussi fait quelques clins d'œil plus symboliques lorsqu'ils sont passés, par exemple, dans l'Arizona, au-dessus de la ville de Tucson, en l'honneur de la parlementaire Gabrielle Giffords, qui a été en fait grièvement blessée dans une fusillade meurtrière l'an dernier, mais dont l'époux, l'ex-astronaute Mark Kelly, avait commandé la dernière mission d'Endeavour. Et donc, les pilotes se sont fait un vrai plaisir. Et les Américains étaient extrêmement nombreux sur le passage du Boeing.
Mais c'est toute l'histoire d'un pays.
C'est toute l'histoire d'un pays qui se clôture parce que c'est tout un programme spatial qui aujourd'hui se termine pour en ouvrir d'autres, puisqu'aujourd'hui, on le sait, c'est Mars qui est la véritable conquête et le véritable enjeu à la fois de la NASA mais aussi des agences spatiales européennes. Donc.
Et les photos sont hyper impressionnantes de voir cette navette sur l'avion.
Enfin, on vous en mettra un petit extrait d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission. Allez, une petite dernière.
Allez, on termine avec un carnet rose aux eaux d'Anvers avec la naissance de Nkosi, un bébé okapi né après 14 mois de gestation. Il est de Sophie, c'est la maman okapi qui avait déjà mis au monde 4 petits. C'est un événement pourquoi ? Eh bien parce que la survie des okapis qui appartient à la famille des girafes est menacée. Il faut savoir qu'on ne trouve des okapis que dans la forêt tropicale de la République démocratique du Congo. Et donc on imagine très bien que la déforestation porte atteinte à leur pérennité ainsi que le braconnage et la situation politique instable du pays. Et c'est déjà le 48e individu qui naît aux eaux d'Anvers depuis 1919. Alors on sait qu'au-delà de l'aspect ludique et divertissant des eaux, ils ont aussi un rôle important dans la protection des espèces. Et c'est le cas d'Anvers, qui est un coordinateur mondial de l'espèce okapi et dont les équipes dirigent un programme d'élevage international. Et alors la particularité des okapi, c'est dingue, c'est qu'ils ont sur leurs pattes et leurs derrières des stries assez spécifiques comme les zèbres, et que ces stries ressemblent à nos empreintes digitales. Donc elles sont uniques, et elles leur servent aussi de camouflage. Et puis, autre particularité des okapis, c'est qu'ils n'ont pas une bonne vue, mais qu'ils compensent avec une ouïe fine et un odorat développé. Et l'autre bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'une autre naissance okapi est prévue pour la Noël. Cela dit, les nouvelles ne sont pas toujours réjouissantes, puisqu'on dévoilait aux États-Unis la semaine dernière la naissance d'un panda géant dans le zoo de Washington. Fait extrêmement rare, car l'espèce se reproduit difficilement en captivité. Eh bien, le bébé panda n'a pas survécu. Les causes de son décès sont à cette heure encore inconnues. On rappelle qu'il n'y a plus que 1600 pandas géants sauvages en Chine et 300 en captivité à travers le monde, une espèce donc en voie d'extinction.
Bienvenue quand même donc à ce petit okapi.
Oui, Nkosi.
Nkosi.
Ça veut dire Dieu dans un langage, un dialecte d'Afrique australe.
Fallait-il vraiment l'appeler Dieu ? Enfin,
bah, écoutez,
sa mère s'appelle Sophie, on aurait pu l'appeler Benoît, comme notre ingénieur du son d'aujourd'hui par exemple.
Benoît.
Hein, Benoît Bric, le petit okapi qu'on irait voir et admirer dans le zoo d'Anvers. Il est très content d'ailleurs, Benoît.
Positif, le dossier.
Ilios Kotsou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes dans l'émission pour nous parler un peu bien-être, parce qu'on ne parle pas que de science et de santé dans cette émission positive. Bien qu'on va faire des liens avec la santé, parce qu'au fond, c'est à la suite d'un article qui est paru dans Imagine Demain le Monde que nous avons été surpris de constater à quel point il existe des études scientifiques qui sont faites en matière de bonheur, de recherche du bonheur. Que se passe-t-il dans notre cerveau ? Peut-on conditionner notre cerveau ? Et vous étiez l'un des participants à cet article. Et du coup, on s'est dit, ces fameux petits cahiers d'exercices de pleine conscience, on va en parler dans l'émission aussi. Ils sont parus aux éditions Jouvence. Alors, on va d'abord un peu rappeler ce que c'est la pleine conscience, de quoi on parle exactement.
Oui. Alors, la pleine conscience, c'est la capacité à s'arrêter dans sa vie pour observer son expérience. On est dans une vie tellement occupée, on a tellement de choses à faire, que pour la plupart d'entre nous, on passe à côté de beaucoup de choses agréables. Mmh. Et donc, ça, le premier point de la pleine conscience, c'est nous ne sommes plus capables, bien souvent, de nous arrêter et de savourer ce qui fait le bonheur de notre vie. Ça, c'est quand on va bien. Quand on va moins bien, la pleine conscience nous propose de nous arrêter pour ne pas nous enfermer dans des mécanismes automatiques qui vont continuer à répéter des vieilles recettes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Je pense à des conflits. Souvent, nos conflits commencent de la même manière, se terminent pas toujours bien de la même manière. Et c'est pas parce qu'on aime avoir des conflits. Personne n'aime avoir des conflits. Personne n'aime être tendu. Mais tout simplement, nous n'avons pas appris la bonne manière de fonctionner. Nous avons des habitudes. Et la pleine conscience nous permet de déconstruire ces habitudes.
Vous parlez même d'absence. Le fait d'avoir d'être dans un mécanisme d'habitude, on est un peu absent de ce qu'on fait.
Oui. Alors ça peut être utile par moments. L'apprentissage et les habitudes nous permettent de ne pas à chaque fois avoir à réfléchir. Vous savez, tout simplement, maintenant, je vais boire un petit peu d'eau, vous êtes devant moi, je ne dois pas réfléchir à comment mettre mon verre pour qu'il arrive au bon endroit et ne pas renverser sur le micro. C'est un apprentissage. Et en même temps, le fait d'avoir trop de processus automatiques fait que nous allons vivre de manière automatique en passant à côté de notre enfant, de notre femme, de notre mari, de tellement de choses agréables qui font le sel de la vie.
Mmh. Alors, vous êtes, je le disais, chercheur en psychologie des émotions, et les émotions, on en parle beaucoup. Ça titille un peu les scientifiques, et surtout depuis que l'imagerie médicale est apportée aujourd'hui, de montrer où se situent les émotions, ce qui se passe dans le cerveau quand on ressent certaines émotions. Et au fond, le bonheur est une des choses les plus étudiées.
Complètement. Alors, évidemment, les émotions ne sont pas quelque part. C'est ce qu'on peut imaginer, mais les émotions sont partout dans le cerveau, et lorsqu'on vit une émotion...
Il n'y a pas un centre d'émotion.
Il n'y a pas vraiment un seul endroit, mais il y a bien sûr certaines zones du cerveau qui vont déclencher les réponses émotionnelles. On peut penser à ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, où il y a une petite zone cérébrale qui s'appelle l'amygdale, qui est double, et cette amygdale est quelque part le scanner qui va scanner l'environnement, et qui va nous permettre, face à un danger, par exemple, de déclencher la réaction de peur. Mmh. Mais les émotions naissent aussi d'évaluations qu'on peut faire. On peut avoir une très très belle émotion en regardant un coucher de soleil. Et cette émotion-là peut être due à une interaction, donc un lien entre notre cerveau, qu'on va appeler intelligent, si on veut le cortex, qui nous permet de nous projeter dans le futur, qui permet de voyager dans le passé, qui a la mémoire des événements, et cette amygdale-là. Donc l'émotion n'est pas que dans un endroit. Mmh. L'émotion est... provient de l'interaction de différentes parties du cerveau, et c'est bien sûr très complexe.
Ça vous étonne, vous, qu'on étudie autant les émotions, ou c'est un peu une recherche très dans l'air du temps, finalement?
Oui et non, non, ça ne m'étonne pas dans le sens où l'émotion, quelque part, c'est ce qui caractérise une grande partie de notre état d'être humain. Alors les animaux vivent aussi des émotions, mais on peut penser que les êtres humains, nous, on vit des sentiments assez complexes, et les émotions sont importantes dans tout, elles sont fondamentale tout simplement dans la compréhension de l'autre, le partage, l'empathie. Donc c'est indispensable pour survivre tout simplement, mais aussi pour partager quelque chose avec quelqu'un. Donc l'émotion, c'est le cœur de notre humanité. Donc je pense que c'est très bien que la science s'y intéresse.
L'émotion, ça sous-tend aussi une sorte de spontanéité dans ce que l'on fait. Est-ce que vous proposez, vous ici, avec le petit cahier d'exercice de pleine conscience, c'est d'amener quelque part à diriger certaines de nos émotions pour arriver à cette pleine conscience? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction?
Oui, alors, la pleine conscience, le but de la pleine conscience n'est pas de contrôler nos sentiments et nos émotions, vraiment pas du tout. C'est tout simplement de pouvoir nous permettre de ne pas être prisonniers de nos réactions émotionnelles lorsqu'elles ne sont pas adaptées. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Certaines réactions émotionnelles sont adaptées. Si je vois quelque chose de très dangereux, oui, et qu'automatiquement je réagis et que cette réaction me permet d'éviter le danger, c'est parfait. On imagine de nouveau un animal, la gazelle, il y a le tigre qui arrive, et si elle peut s'enfuir, elle a échappé au tigre, les paramètres du corps de la gazelle, donc le rythme cardiaque et ainsi de suite, vont revenir à la normale et tout va bien. Le problème de l'être humain, c'est que très souvent, on déclenche des émotions pour des dangers qui ne sont jamais arrivés, on imagine quelque chose, ou qui n'arriveront jamais, et cela nous empêche de vivre. Et donc c'est comment pouvons-nous nous libérer de ces réactions émotionnelles lorsqu'elles ne sont pas adaptées? Mais lorsque c'est adapté, même des émotions positives, il n'y a pas de raison de les changer.
C'est quoi? C'est l'angoisse, le stress, ces émotions négatives qui nous empêchent d'avancer et éventuellement même de vivre l'instant présent?
Alors je dirais, je ne sais pas si ce sont l'émotion en elle-même qui est à mettre en question. Toute émotion est utile, mais c'est plutôt ce que les émotions nous amènent à faire ou nous empêchent de faire.
Oui.
Pour un exemple le plus simple, c'est que quel que soit notre but dans la vie, qui est différent pour chacun, pour atteindre le bonheur, on va devoir faire certaines choses qui vont nous coûter de l'énergie. Parfois, on va devoir dépasser des peurs. Et si on est contrôlé par nos émotions, on ne le fera pas. Un exemple, si je vais aller parler à quelqu'un, cette personne est importante pour moi, cet homme, cette femme, mais que je suis paralysé par l'anxiété, je risque de passer à côté de quelqu'un d'important dans ma vie. Alors ici, la proposition n'est pas de supprimer la peur,
oui,
mais de nous permettre d'aller parler à la personne malgré la peur, donc de ne plus être l'otage de la peur.
Donc, c'est très différent. De vivre avec elle, en fond.
Exactement. D'apprivoiser nos émotions, de pouvoir vivre avec elle sans que ce soit elle qui nous contrôle. Donc, on garde la richesse de l'émotion, mais on n'est plus le prisonnier de réactions qui ne sont pas utiles. Ce n'est pas aussi simple, bien, c'est évident.
Oui, non, ça illustre bien ce que vous êtes en train de dire, de toute façon. Hein. La pleine conscience, qu'on appelle aussi mindfulness, du côté anglo-saxon, mais
oui,
qu'on va réentendre régulièrement aussi chez nous, pour bien préciser les choses. Vous proposez de faire un point, au fond, sur notre propre score de pleine conscience dès le départ de ce petit cahier d'exercices. Et puis on reviendra sur les exercices. Ce sont des phrases, des propositions assez simples qu'il faut noter. Des propositions qui sont très régulièrement en rapport avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il y a toujours une interaction quelque part.
Tout à fait, parce que nous ne vivons pas seuls. Mmh. Et que l'être humain est un être de relation, relation avec les autres, mais aussi relation avec nous-mêmes. Donc, c'est tout à fait logique. Alors, ce petit questionnaire est un questionnaire validé et qui a été validé en français par un des collègues de Louvain-la-Neuve qui s'appelle...
Vous ne retopez pas sur le nom.
J'oublie son prénom. Joël, voilà. Joël, désolé si tu m'entends. Joël Bilieu et son équipe, lorsqu'il était en Suisse, ont validé ce petit questionnaire.
Il ne vous en voudra pas. Hein.
Non, je crois que non.
Vous le citez bien dans l'ouvrage. Et puis, vous proposez aussi donc de prendre conscience de notre absence. Faut pas obtenir un score trop élevé, pardon. Et puis, vous signalez tout de suite que la pleine conscience, c'est un entraînement. Donc, rien n'est perdu, au fond.
Exactement. Alors juste avant, pour donner un petit exemple très concret de ce que c'est que la pleine conscience, on pourrait dire un exemple aussi simple que nos lacets. Il peut nous arriver de lutter avec un lacet qu'on n'arrive pas à ouvrir, et plus on lutte, plus on s'énerve, moins on arrive à défaire ce lacet. Je crois que tout le monde a déjà eu ça. Ouais. Et la pleine conscience, aussi simple, nous propose de nous dire, voilà, continuer la lutte, ça ne fonctionne pas, et la première étape, c'est s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et c'est difficile de s'arrêter dans une vie où on est tellement stimulé par de l'information tout le temps. Puis la deuxième étape, c'est observer. Et observer notre incapacité, notre difficulté à pouvoir dénouer ce lacet. Donc on s'arrête, on observe sa respiration, on observe son énervement. Et c'est la première étape qui nous permettra par la suite, peut-être, de manière bienveillante, de faire quelque chose de différent. Mais si on ne peut pas s'arrêter et observer notre fonctionnement, il va être très difficile de faire différemment. Et comme vous l'avez dit, ça demande de l'entraînement.
Moi, je balance vite ma chaussure à travers la pièce, quand c'est comme ça. Je m'énerve assez vite. On va reparler de ces exercices donc que vous proposez. Des exercices qui ont tous été étudiés. C'est pas des exercices qui sont sortis comme ça de votre intellectuel, bien que je dois être très brillant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais comme vous l'avez dit, c'est quand même aussi basé sur beaucoup de recherches qui ont été effectuées en la matière.
Exactement. Beaucoup de collègues qui ont fait leurs preuves, qui ont été étudiées, validées scientifiquement. Donc je ne suis pas l'inventeur de quelque chose. Je suis un simple messager de choses qui fonctionnent bien, qui ont fonctionné sur moi et qui, j'espère, pourront beaucoup apporter aux autres.
Et alors, des études qui ont été réalisées, pas uniquement aux États-Unis, vous l'avez déjà cité, Joël Bilieu, bien sûr, mais il y a d'autres études qui ont été réalisées chez nous aussi. Ilios Kotsou, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Au positif, le dossier.
Suite de notre dossier avec Ilios Kotsou, chercheur en psychologie des émotions au département de psychologie de l'UCL, on parle du petit cahier d'exercices de pleine conscience paru aux éditions Jouvence, un petit cahier sport cérébral du bien-être. Alors là, franchement, tout est dit. On parlait d'entraîner le cerveau, parce qu'au fond, le cerveau peut changer. On peut changer son cerveau.
On peut changer son cerveau. Et jusqu'au début des années 80, on pensait réellement qu'il était impossible, à partir de l'âge adulte, de réellement modifier de manière structurelle le cerveau. Oui. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, que le cerveau se reconfigure tout le temps jusqu'à la fin de notre vie. Donc il y a une certaine forme de plasticité de notre cerveau, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc il y a des connexions entre nos neurones qui peuvent se reconfigurer tout au long de la vie. Alors un exemple d'une des études frappantes, oui, sur l'entraînement qui change le cerveau, c'est une étude qui a été faite sur les chauffeurs de taxi londoniens. Et on a remarqué qu'une certaine zone du cerveau qui aide à la navigation dans l'espace, l'hippocampe, était plus épais chez les chauffeurs de taxi qui avaient subi l'entraînement. Donc c'est un entraînement long, 2 ans, pour une ville qui est compliquée. Et donc plus les chauffeurs étaient entraînés, il y avait une relation entre l'entraînement et l'épaisseur de leur hippocampe.
Donc ils étaient dans une certaine zone de leur cerveau, travaillaient beaucoup plus que s'ils n'avaient pas été chauffeurs de taxi, et il fallait simplement 2 ans pour développer cette possibilité-là.
Exactement. Ah oui. Et 2 ans, ici c'est long, on sait aujourd'hui qu'on peut avoir des changements réels dans le cerveau en beaucoup moins que 2 ans. Par exemple, un sujet qui est atteint d'arachnophobie.
Moi
va avoir un fonctionnement cérébral différent de quelqu'un qui ne l'est pas. Et on sait qu'en quelques séances de thérapie comportementale, un sujet qui était atteint d'arachnophobie peut retrouver le même fonctionnement cérébral qu'un sujet qui ne l'est pas. Donc c'est extraordinaire. Une étude, je pense, de 2003.
C'est à cause de mon cerveau si j'ai peur des araignées ?
Alors, on ne peut pas dire que c'est à cause du cerveau, mais on peut dire que la peur répétitive va s'imprimer et qu'il y aura un fonctionnement cérébral relié à la peur, des habitudes.
Une sorte de réflexe, quoi.
Des réflexes. Et c'est ce qu'on va appeler, de manière commune, des routes neuronales. Donc c'est un petit peu comme une rivière qui... Hein, c'est un petit ruisseau, mais à force de prendre toujours la même route, elle va finir par s'élargir. Et quand il y a de l'eau qui arrive, elle passera toujours au même endroit. Mmh. Et ce qu'on va faire pour un changement, c'est créer une dérivation. On va proposer un nouveau chemin. Mais il va falloir de l'entraînement. et que la rivière coule de très nombreuses fois dans la nouvelle direction pour que ça devienne un nouveau chemin qu'on puisse prendre dans une même situation. Un exemple aussi, c'est ce qu'on appelle les asymétries préfrontales. Alors on sait que quelqu'un qui vit beaucoup d'émotions positives, au repos, aura la zone gauche du cerveau qui sera plus activée électriquement. Donc quand on mesure avec un électroencéphalogramme, on voit ce... Alors on sait aujourd'hui qu'en quelques semaines de méditation, de pleine conscience, on peut changer, donc créer un changement au niveau de l'activation électrique du cerveau. Extraordinaire, non ?
C'est pas mal. Ça va assez vite, c'est assez rapide. Donc, oui. Moi, je suis surprise par cette rapidité, au fond, de changement, de cette capacité de changement du cerveau.
Alors, en même temps, on va dire rapide. Oui, c'est très rapide, entre 5 et 8 semaines. Et en même temps, dans ces études, on propose en général aux personnes de pratiquer tous les jours.
Ah,
donc,
oui.
Je pense que la métaphore, elle est toute simple. C'est comme un instrument de musique. Si vous voulez jouer du violoncelle, on vous donne un violoncelle et on vous met un archet dans les mains. Je ne sais pas si vous jouez du violoncelle.
Non, je ne peux pas tout avoir.
Alors j'imagine que les premiers sons qui vont sortir ne vont pas être terriblement harmonieux, que la personne qui vit avec vous ne sera pas particulièrement heureuse de vous entendre jouer. Mais si vous persistez tous les jours, au bout d'un certain temps, eh bien, vous allez acquérir une nouvelle compétence qui va faire que vous pourrez jouer. Mais ce n'est pas uniquement parce que vous avez un violoncelle chez vous que ça va changer tout seul. Donc un ouvrage, un stage, ainsi de suite, en lui-même ne change rien. C'est vraiment la pratique répétée qui va nous permettre de changer.
Donc, vous dites d'ailleurs, le livre n'est pas une recette magique pour devenir heureux, hein, loin s'en faut, mais vous proposez quand même des exercices très pratiques à effectuer de manière assez simple, et c'est la répétition de ces exercices qui vont faire qu'à un moment ou à un autre, je serai capable, et j'aurai suffisamment entraîné mon cerveau, à être plutôt dans la pleine conscience que dans l'absence.
Oui, on va dire la pleine conscience, c'est la capacité, c'est un processus en fait, c'est la capacité à revenir à l'expérience présente. Et donc, ce n'est pas quelque chose, on n'est pas en pleine, oui on peut dire, on peut être plus en pleine conscience, mais c'est vraiment cette capacité à revenir.
Oui.
Et donc un exercice tout simple de base pourrait être s'arrêter plusieurs fois par jour et se demander, tiens mais comment est-ce que je me sens maintenant ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? On pourrait commencer par le corps. Allez, quel est l'état de mon corps ? Quelle est ma position ? Quelle est l'expression de mon visage, et tout simplement prendre conscience de ce qui se passe corporellement ici et maintenant. Première très bonne étape. Alors une deuxième étape, ça va être d'entraîner une flexibilité du cerveau entre les moments d'absence et les moments de présence. Tout simple, on pourrait se concentrer sur la respiration. Et bien évidemment, je suis ici assis, je pense à ma respiration, je la ressens, et très vite, qu'est-ce qui va se passer ? Ma tête, par ailleurs, elle va se promener à tout à l'heure, après l'émission, j'ai tellement de choses à faire, et puis je reviens et je ramène mon attention sur ma respiration. Et cet exercice, c'est un peu de la musculation de l'attention, à chaque fois revenir à ce qui est ici présent, me désengager de mon esprit qui va partout, complètement,
qui vagabonde, oui.
Voilà, qui vagabonde, indiscipliné, et le ramener à mon expérience de l'ici et maintenant. Une étude très sympa a pu montrer, on a demandé à des personnes avec un petit, elles avaient un téléphone portable comme un petit PDA qui les arrêtait plusieurs fois par jour en leur demandant, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Est-ce que vous êtes présent à ce que vous faites ? Et est-ce que vous êtes heureux ou pas ? Et on s'est rendu compte de quoi ? Que le bonheur des personnes était beaucoup plus lié au fait d'être présent qu'à la nature de l'activité. C'est-à-dire, les personnes étaient plus heureuses en balayant en pleine conscience, qu'en mangeant une glace et en pensant à autre chose. Je caricature, bien entendu, mais c'est ce qu'on a trouvé.
Alors, c'est marrant parce que quand on parle d'entraînement, on a l'impression aussi qu'à un moment donné, on parle conditionnement. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux, parce que c'est ce que je disais à la journaliste en début d'émission, on va conditionner votre cerveau au bonheur. Ça, c'est malheureusement pas possible de le faire. Il faut déjà qu'il y ait une sacrée volonté de la part de l'individu pour pouvoir changer son cerveau. On ne le changera pas comme ça.
Complètement, on ne change pas comme ça, et on n'est pas tous égaux par rapport au stress, au bonheur.
Oui.
On a un héritage, c'est comme si on avait reçu un champ, et certains ont reçu un champ plein de cailloux, et puis les autres un champ où la terre est directement très fertile. Et ça c'est une réalité. Mais cet héritage-là, il compte pour maximum 50% de notre capacité à gérer le stress, à être heureux.
Oui.
Et puis il y a le temps qui va faire, et ça on ne le contrôle pas. Peut-être 10%. Et à côté de ça, il y a notre volonté et notre attention à venir tous les jours cultiver. Et ça, c'est au moins 40%. Donc, quel que soit notre passé, le champ qu'on a reçu, quelles que soient les conditions extérieures, bien sûr, je parle de personnes qui ont un minimum pour vivre. Je ne parle pas de pays, ou même en Belgique, de gens qui ont des conditions tellement terribles. Je ne parle pas de ces personnes-là. Il leur faut les conditions minimum pour cultiver leur champ. Mais là, pour la plupart d'entre nous, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va tous les jours pouvoir aller cultiver cette capacité à être plus présent dans nos vies et plus heureux.
Notez qu'on aurait à retenir de ces gens-là aussi qui n'ont pas les mêmes chances ou les mêmes possibilités dans leur vie parce qu'ils ont une capacité à rechercher des petites choses, des petits moments de bonheur qui est parfois assez étonnante aussi.
Oui. Mais ça, c'est un bel enseignement qui nous montre que cette capacité à nous arrêter aux petits plaisirs de la vie est beaucoup plus important pour prédire le bonheur que des grandes sensations. Mmh. Un de mes collègues de Harvard, Jordi Quadbach, a une étude là-dessus qui montre que c'est vraiment ces petits plaisirs-là qui prédisent notre bonheur, que s'il fallait choisir à dépenser de l'argent pour des petits bonheurs partagés par exemple avec des amis, ou s'acheter une voiture ou un bien très cher, eh bien de loin, choisissez les petits bonheurs.
On arrive déjà à la fin de cette émission. Je rappelle d'abord, petit cahier d'exercice de pleine conscience aux éditions Jouvence. Et puis le site pleineconscience.be en un mot. Hein, c'est un site qui est écrit en un mot. On y retrouve des audios particuliers. C'est quoi ces audios?
Oui, alors ce sont des petits enregistrements d'exercices qui nous permettent de pratiquer chez nous. Et c'est plus facile d'avoir une voix qui vous accompagne dans l'exercice que soi-même de le faire. Et donc c'est
un petit pédagogique. On peut les mettre sur un petit machin à trimballer partout.
Voilà, il y a une petite exercice de marche en pleine conscience. Il y en a un autre de respiration en pleine conscience. Je voudrais aussi, si je peux citer, qu'il y a samedi 29 septembre, au matin à l'ULB, il y a une conférence avec quelques, on va dire, le pape de la pleine conscience, John Kabat-Zinn, le professeur américain à l'origine de ce programme, Christophe André, un psychiatre français qui est vraiment très très chouette, et un psychiatre belge génial qui s'appelle Edelmax. Il y a encore quelques places, et sur le site emergence-asbl.org, on peut les trouver. Et pour revenir à l'entraînement, eh bien, je dirais deux choses. Albert Einstein nous disait déjà, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et pour tous ceux d'entre nous qui disent qu'ils n'ont pas le temps, eh bien Gandhi, je cite Gandhi qui dit, j'ai tellement de choses à faire cette semaine, je vais devoir méditer en pleine conscience deux fois plus longtemps.
Très joli, merci beaucoup Elios Koutsou, au plaisir de vous retrouver dans l'émission, au revoir.
Merci.
Au positif, la perf du jour.
Pour parler de cette perf du jour, je reçois le docteur Georges Mérès. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue à la clinique du Sud Luxembourg à Arlon. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, eh bien c'est parce que ce lundi démarre la semaine du cœur, ayant pour thème cette année fibrillation auriculaire, rythme irrégulier, cerveau en danger. La Ligue cardiologique belge lance donc sa campagne. En réalité, cette fameuse fibrillation auriculaire dont on va parler, c'est une affection du rythme cardiaque qui augmente jusqu'à 5 fois le risque d'accident vasculaire cérébrale, et on estime que toutes les 12 secondes, une personne dans le monde est victime d'un AVC consécutif à une fibrillation auriculaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse fibrillation auriculaire?
Eh bien, la fibrillation auriculaire, en fait, c'est une perte de la commande électrique du cœur qui se situe normalement au niveau des oreillettes. Mmh. Et donc les oreillettes s'emballent, battent extrêmement vite, entraînent le cœur sur un rythme à la fois souvent rapide, mais toujours très irrégulier.
Oui.
Le sang peut stagner alors dans ces oreillettes, qui sont le réservoir, en fait, qui reçoit le cœur avant de l'éjecter via les ventricules dans l'ensemble de l'organisme. Et donc, comme le sang risque de stagner, il peut se former des petits caillots de sang. Quand un caillot de sang part alors dans la circulation, eh bien, il y a un risque, effectivement, qu'il aille bloquer une artère. Hein, juste à la sortie du cœur, il y a les artères qui vont nourrir le cerveau. Et c'est pour ça que le cerveau est l'organe qui est le plus en danger à ce moment-là.
D'accord, c'est pour ça que c'est lui qui est le touché en premier quand il y a un caillot, c'est ça?
Prioritairement, oui.
Mais ce n'est pas uniquement le cerveau, j'imagine que ça peut entraîner d'autres conséquences. Si par exemple ce caillot a le bonheur de passer quand même à travers le cerveau, est-ce qu'il peut y avoir d'autres types de conséquences?
Alors effectivement, donc si le caillot n'est pas pris par les artères qui conduisent le sang au cerveau, les artères carotides, il peut aller dans n'importe quelle autre artère de l'organisme. Ça peut être, à ce moment-là, on appelle ça un embole qui va bloquer une artère du bras, du rein, de l'estomac, des membres inférieurs, différents endroits. Mais à cause de leur proximité par rapport à l'origine de l'aorte, ce gros vaisseau qui emmène le sang à l'ensemble de l'organisme, à cause de leur proximité, les artères carotides, donc le cerveau est le premier risque.
Alors si la Semaine du Cœur et la Ligue cardiologique belge ont décidé d'axer leur campagne cette année sur cette fibrillation auriculaire, c'est parce qu'une enquête a démontré que, eh bien, dans l'esprit de tout un chacun, on sait plus ou moins ce que c'est la fibrillation auriculaire, et encore, mais on ne sait surtout pas quels sont les vrais dangers derrière cette fibrillation.
Exactement. Donc, on a réalisé une enquête auprès de 1000 personnes en Belgique, donc avec un risque d'erreur de 3%, et on se rend compte qu'effectivement, à peine 10% des gens savent vraiment ce qu'est la fibrillation auriculaire. De l'ordre de 10 à 15% savent citer la complication la plus fréquente, le risque de caillot, savent citer qu'il faut effectivement, ben, du coup, pour éviter ce risque de caillot, fluidifier le sang, donner des médicaments anticoagulants pour éviter ce risque de caillot et d'embol.
Alors, ces fameux médicaments anticoagulants que l'on peut absorber entraînent, eux, par contre, d'autres effets secondaires ou d'autres risques. Donc, c'est quand même des traitements qui sont assez lourds.
Alors, ce sont des traitements qu'il faut vraiment individualiser en fonction du risque de chacun. On a des échelles de score de risque que l'on applique aux différents patients qu'on va voir et qui vont nous dire si, effectivement, c'est quelqu'un qu'il faut à tout prix protéger par un anticoagulant ou pas. Et le cas échéant, s'assurer qu'il n'y a pas, à l'inverse, un risque avec ces anticoagulants de présenter des hémorragies, des saignements. Mmh. Et donc, on a des scores qui nous permettent de peser le pour et le contre et donc d'individualiser vraiment le traitement en fonction de chaque patient.
Est-ce que c'est le seul traitement qui existe, l'anticoagulant ?
Alors, l'anticoagulant est une pierre angulaire. C'est la première étape de la prise en charge de la fibrillation auriculaire. Après, il y a d'autres aspects au traitement. On doit essayer de contrôler le rythme du cœur pour éviter qu'il ne s'emballe trop rapidement, qu'il ne fatigue le cœur, qu'il ne donne de l'insuffisance cardiaque. On essaye aussi de contrôler les symptômes. Donc, on n'a pas encore parlé des symptômes liés à la fibrillation auriculaire.
Oui, on va en
parfois,
parler.
C'est très désagréable. Les patients sentent vraiment ce cœur irrégulier, sentent vraiment ces palpitations qui les embêtent. Et donc, on essaye à tout prix de réduire les symptômes. Et puis alors, dans certains cas, quand on le prend suffisamment tôt, on a la possibilité de pouvoir aller, par une technique interventionnelle, par un cathétérisme interventionnel, brûler au niveau des oreillettes les foyers d'où partent ces fibrillations auriculaires.
Donc c'est quand même, il y a différentes possibilités, mais on voit quand même tout de suite que c'est assez précis, pointu, et en même temps, vous l'avez dit, c'est adapté à chaque patient, donc pour avoir un bon traitement, il va falloir déjà attendre un certain temps, j'imagine, pour faire toute une série d'analyses. Vous parliez des symptômes, est-ce qu'il existe des symptômes avant-coureurs ?
Alors, le symptôme de la fibrillation auriculaire, c'est la palpitation, c'est de sentir son cœur irrégulier.
Oui.
C'est la raison pour laquelle on conseille aux gens, en termes de dépistage, de surveiller la régularité du pouls, hein, prendre son pouls. Et quand le pouls est totalement irrégulier, eh bien, à ce moment-là, ça vaut la peine d'en parler, effectivement, avec son médecin traitant. Et un simple électrocardiogramme va permettre de poser ou non le diagnostic de fibrillation auriculaire ou d'une autre arythmie éventuellement plus banale.
C'est ça, c'est-à-dire que cet examen qui est quand même assez banal et qu'on peut pratiquer de manière assez rapide est un examen qui va pouvoir déterminer différentes pathologies dont la fibrillation auriculaire.
Voilà, absolument. Donc en tout cas, ça permet d'asseoir le diagnostic de fibrillation auriculaire. Évidemment, il faut réaliser l'électrocardiogramme pendant que le cœur est irrégulier.
Mm-hmm.
Hein, on peut avoir des gens chez qui le cœur est irrégulier à certains moments seulement. Et alors, il faut peut-être parfois programmer des enregistrements d'électrocardiogramme de plus longue durée.
Mm-hmm.
Il faut parvenir à saisir le moment. Et si on parvient à prouver par l'électrocardiogramme que cette irrégularité est bien de la fibrillation auriculaire, alors il faut clairement la prendre en charge.
Est-ce qu'il existe un terrain génétique qui devrait aussi servir peut-être de système d'alarme ?
Alors, dans de très rares cas, il peut y avoir des prédispositions génétiques, mais c'est vraiment pas la majorité des cas.
D'accord.
Ce qui est important, par contre, à signaler, c'est que malgré tout, dans un patient sur trois, cette fibrillation auriculaire peut passer totalement inaperçue, ne s'accompagner d'absolument aucun symptôme. Et donc, c'est vraiment au contrôle systématique, hein, de vérifier simplement la régularité du pouls que l'on peut la détecter éventuellement.
Mmh.
Et donc prévenir, si on la prend en charge suffisamment tôt, le risque d'accident embolique, notamment d'accident vasculaire cérébral.
Alors vous l'avez dit, finalement le dépistage est assez simple dans un premier temps. C'est pour ça que lors de cette semaine du cœur, et donc tout au long de cette semaine-ci, vous aurez l'occasion de pouvoir mener des actions de prévention, d'accueillir le public qui viendra et aura la possibilité de faire un test tout simple, voir si éventuellement il faudrait aller plus loin ou pas dans le dépistage de la maladie.
En effet, donc, dans différents hôpitaux du pays sont organisées des séances d'information à l'intention du grand public. Le dépistage le plus simple est un dépistage qui peut durer toute l'année. C'est un dépistage qui peut être réalisé chez son médecin généraliste. C'est simplement pour surveiller son pouls et en cas d'irrégularité, en parler avec son médecin, en parler régulièrement et répondre comme ça aux questions.
Eh ben, je propose à nos auditeurs alors de se rendre sur le site consacré à la semaine du cœur et pourquoi pas donc dans l'un de ces centres pour effectuer un petit test rapide et éviter peut-être beaucoup de problèmes par la suite. Merci beaucoup docteur d'avoir répondu à nos questions. Bonne semaine à vous.
Je vous en prie. Bonne journée.
Merci, au revoir. Bonne journée à vous aussi. Merci d'être resté à l'écoute. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition de ce magazine Au Positif. Merci à Sandra Varas, à Catherine Sorel. Merci à Benoît Bric. Merci à vous. Et à demain avec Yasmine Boudakab, bien sûr.
Podcast. La première.